Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai une émission un petit peu spéciale avec un invité. C'est une émission dédiée à la vidéo, à YouTube, et j'ai décidé d'inviter, alors je vais pas l'appeler l'empereur du tuto vidéo sérieux, mais en tout cas, il est efficace, sympa. Moi, je l'appelle mon prof de vidéo, parce que c'est avec lui que j'apprends un petit peu les ficelles, les techniques du montage vidéo, du tournage et autres. Salut Max.
Salut. Merci de me recevoir.
Donc je disais très sérieusement en fait, t'es vraiment mon prof de vidéo, c'est pour ça que je voulais t'inviter parce que j'apprends énormément de choses dans tes vidéos. Et en fait j'étais vraiment intéressé par ton expérience et comment tu procèdes, comment tu crées tout ça. Alors est-ce que tu pourrais te présenter d'abord en quelques mots ?
Ouais, alors je suis Maximus, tu peux me trouver en tapant Maximus la plupart du temps ou Maximus Montage parce que je me suis quand même bien référencé comme ça. Et donc je fais quoi ? Je fais des tutos de montage sur YouTube, mais ma vie n'est pas limitée à ça. À côté de ça, je fais du cinéma, de la pub. Et donc voilà, j'ai fait une école de cinéma, tout plein de choses passionnantes. Mais voilà, l'idée c'est de créer tous les jours, d'entreprendre sans cesse pour toujours essayer de faire des projets de plus en plus cool.
Donc toi t'es un pro de la vidéo.
Ouais,
hein.
On peut dire ça, on peut dire qu'en tout cas j'essaye d'être le meilleur possible chaque jour.
Est-ce que tu te définis sous cette notion de youtubeur ou...
Ouais, moi je me définis comme tu veux. Je me définis comme tu veux, il y en a pour qui je suis youtubeur, il y en a pour qui je suis technicien, il y en a pour qui je suis prof. Je suis plein de choses après youtubeur, comme je le disais dans une conférence la dernière fois que j'ai fait dans une école. Au final, c'est juste un créateur de vidéos qui les diffuse sur YouTube. Donc si tu veux, c'est le vidéaste. Moi, j'aime pas ce terme, mais c'est le vidéaste qui diffuse sur YouTube. Maintenant, effectivement, il y en a qui sont que youtubeurs. C'est-à-dire que pour parler de leur business, si tu veux, leur business, il est sur YouTube et leurs revenus sont sur YouTube uniquement, genre la pub, voilà, les revenus de sponsoring et autres. Et moi, ma vie, c'est pas YouTube, c'est pas centré sur YouTube. Et YouTube n'est pas non plus le point central. Donc, dans la définition large du terme, je suis YouTuber, mais sinon, je suis pas YouTuber de carrière, si tu veux.
Alors, c'est d'ailleurs pour ça que je t'avais invité, en fait. Parce que, on va le dire, t'as pas un nombre d'abonnés. T'as combien, 10 000, un peu plus de 10 000 ?
Je crois qu'on est à 11 000 là bientôt.
11 000, bah, bravo. Je dis, parce que comparé aux gros chiffres des gros youtubeurs dont on a toujours l'habitude, ça paraît petit, mais en fait, c'est immense. C'est-à-dire pour moi qu'on est 217.
Ouais.
Tu vois ?
Non, mais moi, j'ai pris une photo de capture d'écran. Non, même pas capture d'écran du pauvre. Tu sais, j'ai pris mon écran en photo quand j'avais 55, je crois, abonnés. Donc j'ai toujours cette photo. Et je la garderai, et dans mes bureaux, quand j'aurai assez d'argent pour avoir des bureaux un jour, j'aurai cette photo encadrée, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et je pense que, je vais me faire taper dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs qui ont oublié d'où ils venaient. Mais après, je pense que tu aies 200 abonnés ou que tu en aies 200 000, c'est la façon dont tu les vois et comment tu décides de traiter et d'interagir avec ton audience qui fait la différence. Et moi je sais que j'ai été beaucoup on m'a beaucoup dit oui non mais ce que tu fais avec 100 abonnés tu le feras pas avec 1000, ah puis tu le feras pas avec 10 000, puis tu le feras pas avec 11 000, tu le feras pas avec 100 000. Bah écoute, non, je fais la même chose aujourd'hui avec 100 que je faisais avec 100. Je suis toujours aussi proche d'eux, je suis toujours aussi au courant de qui est qui fait quoi, et quand je pourrais pas le faire tout seul, et ben je mettrai un système qui permettra de le faire en masse. En tout cas, donc c'est pas le nombre qui compte vraiment, c'est ce que t'en fais.
Bon, c'est 55 abonnés, c'était il y a combien de temps ?
Je sais pas, j'ai commencé avril 2016. La première vidéo qui était le début d'une chaîne, c'est avril 2016, je crois le 24 ou le 16 avril, un truc comme ça. Donc c'était ouais, c'est en un an et demi, deux ans, ça fait ça quoi, ça fait 11 000 et quelques.
Bon, c'est quand même une belle progression. C'est vrai que ce que tu dis sur ta communauté, les gens ont l'impression vraiment que tu as une communauté très, très impliquée avec toi.
Ah bah oui, c'est un des trucs qui est important pour moi parce qu'en fait, Alors à côté de ça, j'ai une petite chaîne de divertissement, mais vraiment undercover, ça s'appelle Versus Guys. Et là, on est vachement moins. Je fais ça avec un pote, on répond pas aux commentaires, etc. On est moins présent. Et donc, du coup, c'est vraiment différent, quoi. Mais après, l'idée, c'est toujours d'être proche des gens, parce que sinon, moi, je vois pas l'intérêt, si tu veux, de faire des tutos, de faire des vidéos YouTube et de me casser la tête, de mettre du temps à faire ça, parce que je le fais pour les gens. Si derrière, c'est pour ne pas répondre à quelqu'un qui a une question légitime ou une question importante, voilà, ou qui a pas compris quelque chose. Donc moi je trouve ça super important en fait, et je comprends pas ceux qui le font pas, et je comprends pas ceux qui ont des petites chaînes et qui le font pas.
Alors ce qui m'intéressait en plus dans ton parcours, c'est moi dans le podcast je parle de marque personnelle, de contenu à forte valeur ajoutée, et c'est qu'en fait tu fais pas le mariole, enfin mais t'es pas triste ni enfin t'es
non, je suis très heureux.
tu pars pour un mec qui est marrant, sympa, etc., mais qui donne des conseils super pro.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais, après, c'était une question ou pas ?
tu peux considérer que ça peut être une question.
Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai commencé YouTube pour une raison, c'est que j'ai vu des tutos de certaines personnes, et que je ne nommerai pas, comme tu peux t'en rendre compte, mais j'ai dit, ah, bah, c'est bien, mais c'est pas vrai. Et je me suis dit, ah, il est peut-être temps qu'il y ait quelqu'un qui donne les vraies informations, ou alors que quelqu'un, au moins, quand il sait pas, qu'il dise, je ne sais pas, mais voici ce que je sais. Et ça, c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'en fait, ceux qui savent pas, ils préfèrent dire qu'ils savent et mentir. Mais le problème, c'est que les imposteurs et les menteurs, ils sont démasqués très très vite. Et le problème, c'est que ben voilà, quand t'es démasqué, soit tu passes pour un rigolo et tu continues à faire le rigolo, soit tu rétablis la vérité, tu dis que tu sais pas ça, que t'es pas sûr. Moi, ça m'arrive très souvent dans les vidéos de dire, je suis pas le spécialiste de ça, mais voilà ce que je sais et je vais essayer de t'apprendre des trucs, ou du moins partager mon expérience. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'être le meilleur monteur au monde pour partager mon expérience. Mais voilà, c'est vraiment, faut pas mentir, parce que ça fait de toi un rigolo au final. Et ça, c'est vaut mieux que tu ris de toi plutôt que les gens rient de toi.
En fait, je me suis posé une question, c'est pourquoi t'as commencé ta chaîne au départ, mis à part cet aspect de dire un peu des trucs vrais sur le montage, etc. Mais ton objectif au départ...
Alors, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit à personne. Bon, on va pas se mentir, j'ai 11 000 abonnés, j'ai fait un seul podcast jusqu'ici, mais même quand j'en parle aux gens, je le dis en privé, mais je le dis rarement pour que ça aille sur l'internet. Depuis que j'ai 11 ans, je montais mon premier ordinateur, j'ai fait des vidéos, donc je suis autodidacte avant d'être passé par l'école de cinéma. J'ai fait une web-série avec aucun moyen, un court-métrage avec très peu de moyens quand j'avais entre 17 et 18 ans, parce que je travaillais pas à l'école, parce que je trouvais pas ça très intéressant. Et donc du coup, en gros, je suis devenu... Après, j'ai fait du cinéma, j'ai travaillé non-stop hardcore pendant 6 ans, donc jusqu'à voilà, 2016. J'ai travaillé non-stop de 2010 à 2016, mais vraiment non-stop, quoi. Pas de vacances, pas de rien du tout. Le seul truc que je faisais, c'était aller au cinéma le soir pour m'aérer le cerveau après avoir fait du montage ou de l'assistanat toute la journée, donc c'est pour te dire. Donc voilà, ça m'arrivait de regarder des fois un film par jour et me coucher très très tard, mais... C'était nécessaire parce que j'avais besoin de sortir de ça, parce que quand tu travailles à fond et ces métiers-là, c'est pas comme plein d'autres métiers. Faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais t'as une tension, t'es toujours en tension, c'est-à-dire que t'es toujours au travail parce que t'as 3 mois pour faire un film et il y a énormément d'argent en jeu. Enfin voilà, c'est assez complexe et il y a pas mal de tensions et de responsabilités. Et je me suis dit à un moment, ah ouais, c'est cool, ça fait j'ai fait 15 films, enfin j'ai bossé sur 15, entre 15 et 17 gros projets. Et je me suis dit, c'est génial, j'ai fait énormément d'heures, j'ai pas de soucis à trouver du travail. Mais en fait, je me suis dit, ok, mais à terme, comment ça évolue ça ? Et j'avais le choix donc, d'évoluer comme monteur au cinéma, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, je peux toujours le faire. Mais ça me demandait beaucoup de travail et ça me lançait encore plus dans cette carrière, si tu veux, où t'es isolé dans ton bureau, tu vois personne, tu travailles avec un réalisateur. Et il y en a qui ça peut plaire, mais en fait, moi, je me rends compte que j'ai plus besoin de partager. Et donc, je pensais que bah, partager avec les gens sur Internet mon savoir plutôt que de le garder pour moi et de le monnayer très très cher en me vendant comme technicien, et ben, ce serait plus intéressant. Et il s'avère que j'avais raison parce que c'est tout aussi intéressant, si ce n'est plus, de partager son savoir et de pouvoir donner la capacité à un autre humain de réaliser quelque chose de ses mains, et, enfin de ses mains ou de son clavier en tout cas. Et donc voilà, je trouve que c'est... Si tu veux, en termes de, comment on pourrait dire ça, d'un point de vue de ton âme ou de ton d'une autre rémunération que la rémunération financière, c'est très intéressant en tout cas. Donc c'était l'objectif, c'était de ne pas m'être concentré sur moi, mais plus sur l'extérieur. Très philosophique.
Oui. Et donc maintenant, tu as ouvert la. C'est quoi la Maximus Academy?
Maximus University, ouais.
University, pardon.
Tout s'appelle
pourquoi
Maximus.
J'ai Academy. Ouais, c'est tout Maximus. D'ailleurs, je dois dire que j'ai acheté ta formation. J'ai pas du tout. J'ai même pas ouvert la première session. Mais j'ai ouvert le logiciel quand même.
C'est bon, alors.
Voilà. Et demain, je montrerai un petit truc. Pour tester. En fait, je te dis pourquoi je l'ai acheté. C'est d'une part parce que, en fait, c'était pour te rémunérer sur toutes les vidéos que tu as faites. en grande partie.
Merci.
Parce que jusqu'à maintenant, moi, je monte sous Final Cut. Je l'aime pas particulièrement, mais je le déteste pas, tu vois. Je me disais, est-ce que je passe sur Premiere, tu vois, je vous regardais plein de tutos, etc. Et me suis dit, putain, il y a un pro qui me dit DaVinci, c'est génial, etc. On fait vachement de trucs intéressants. Et en plus, je vous montre comment. Et je me suis dit, à force de regarder ces vidéos, mais je regarde, je sais pas combien je regarde, tu vois, sur ta chaîne, mais je suis abonné, tu vois, dès que j'en vois une. Et je me suis dit, je suis pas sûr d'utiliser le logiciel, mais rien que pour le remercier pour tout ce que j'ai appris à droite à gauche, etc. et ses conseils. J'ai envie d'acheter sa formation.
Bah écoute, je te remercie en tout cas, ça me touche beaucoup parce que c'est vraiment pas des démarches auxquelles je m'attendais, tu vois, mais ça, en tout cas, ça me fait plaisir.
Et en fait, c'est la démarche, mais tu vois, c'est un peu comme moi sur le Patreon, quand les gens ils donnent un euro pour financer la vie, alors que finalement ils peuvent l'avoir gratos. Et ils l'ont gratos parce que finalement, sauf depuis aujourd'hui, là où j'ai restreint, je fais un épisode spécialement pour les Patreons, tu vois. Mais en fait, c'était l'une des raisons principales. Bon, après, l'autre raison, c'est que si vraiment j'arrive à suivre ta formation, je vais apprendre à faire plein d'autres trucs.
Ouais.
Mais ce que je me suis demandé, c'est depuis quand t'as eu l'idée d'ouvrir cette formation en ligne comme
Alors,
ça.
Alors, les formations, c'est complexe. Je l'ai expliqué déjà dans des vidéos. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment, tu sais, infopreneur, tous les mecs qui vendent de l'information en ligne à 397 euros, etc. Et j'étais très, très, très contre ces gens-là parce que j'entendais beaucoup dire que c'était des arnaques, etc. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle, je ne sais pas comment parce que j'ai pas de mot pour ça, mais en gros, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas aller voir si c'est vraiment tous des arnaqueurs et tu vas te faire ton avis, toi. Et donc, j'ai pris contact avec certains, j'ai été voir comment eux, ils travaillaient, ce qu'ils faisaient, comment ils parlaient à leurs clients, comment ils géraient, dans des situations où ils peuvent difficilement cacher des choses, si tu veux. Et j'ai vu que c'était pas tous des arnaqueurs. Donc déjà, tu vois, moi, j'ai amorcé un truc où... J'avais moins une vision péjorative, on va dire, de cet environnement-là et de vendre des trucs sur Internet. Enfin, du moins, de vendre des formations, tu vois, qui ne sont pas des trucs genre sur tuto.com ou autre. Et donc, à ce moment-là, il y en a qui m'ont dit « Ouais, mais attends, ta chaîne, elle est géniale. Tu devrais vendre des trucs plus complets que ce que tu fais. Parce que tes petits tutos, ils sont bien. Mais si moi, je veux apprendre de zéro un logiciel ou si je veux apprendre à monter avec mon téléphone ou quoi que ce soit... J'ai personne qui me fait ça et qui est comme moi, qui a l'autorité que j'ai, si tu veux, entre guillemets, autorité, d'un professionnel, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était quelque chose de plutôt sympa. D'autant plus que moi, je formais, si tu veux, c'est ce que je fais tout le temps. Quand j'ai des stagiaires, mon meilleur pote Samuel, qui lui aussi maintenant fait du cinéma depuis 2-3 ans, c'était mon stagiaire sur. J'étais son premier maître de stage. Je lui ai appris énormément de choses à la sortie de son BTS. Et aujourd'hui, il me le rend bien, je lui rends bien en échange. Et donc, du coup, voilà, c'était au final prendre ce que je faisais en one-to-one, si tu veux, et le mettre sur Internet pour qu'un plus grand nombre puisse y avoir accès, de façon à, voilà, toujours la même chose que la chaîne YouTube, mais survitaminée, quoi.
T'es donné des objectifs après d'en sortir un certain nombre de formations ou...
Ouais, j'ai des objectifs très, très gros pour une personne toute seule. Non, si tu veux, l'objectif, alors... Je cache pas. Moi, je suis très transparent avec l'argent parce que bon, qui dit objectif dit argent aussi. Je suis très transparent avec l'argent dans certaines limites parce qu'on est en France quand même et y a des gens qui ont du mal à se comporter avec l'argent, mais c'est normal puisqu'on n'est pas bien éduqué. Mais l'objectif premier, bien entendu, c'est de réaliser assez de ventes pour pouvoir faire des formations de plus en plus cool et des projets de plus en plus intéressants. Mais ça, si tu veux, c'est l'aspect qui va concerner vraiment l'utilisateur. Pour ce qui est de moi en tant que, entre guillemets, chef d'entreprise, puisque c'est une entreprise, et en tant qu'entrepreneur, l'objectif, il est identique, si tu veux, mais il a une parallèle qui est de à plus 2 ans, plus 5 ans, avoir quelque chose qui permet de rendre ce qu'on dit souvent, et ce que j'entends dire dans plein de vidéos de gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils disent, qu'on peut apprendre sans une école de cinéma. Et donc en gros, ce que je veux faire, c'est que quand quelqu'un dit « on peut apprendre sans une école de cinéma », je veux que ce soit réel et viable. Parce qu'aujourd'hui, c'est réel, c'est possible, mais c'est pas viable. C'est-à-dire que tu ne feras pas de cinéma si tu n'as pas fait d'école. Parce que c'est très compliqué. Il y a des cas particuliers, mais c'est très compliqué. Tu pourras monter ton entreprise où tu filmes des mariages, des bar mitzvahs, ou plus des trucs où c'est toi tout seul. Et ça, tu vas devoir faire un BTS. Et les BTS, les places sont limitées. Donc si tu veux, moi, à terme, ce que je veux faire, c'est proposer une alternative, toujours avec le fun, la bonne humeur, parfois des formations en présentiel, mais voilà, une vraie alternative aux écoles, aux BTS et aux cursus scolaires français qui est inadapté à peu près tout le monde. Donc voilà, c'est l'idée, si tu veux, moi, de le gros objectif, c'est ça.
D'accord, donc c'est vraiment pas qu'un objectif purement en ligne, c'est aussi, comme tu dis, des formations physiques.
Ouais, t'es obligé, puisqu'il y a un moment, si tu veux, en fait. Bon, je vais essayer de faire des phrases courtes parce que j'ai tendance à beaucoup trop parler. Après, tu vas faire un podcast de 6h30. Mais en gros, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu as une formation en ligne, tu peux la faire quand tu veux, le soir, tu peux la faire le midi, tu peux la faire le matin, tu peux la faire quand tu veux. Si elle est bien travaillée, tu peux apprendre vite parce que c'est des petits modules rapides avec des petits quiz. Là, je vais rajouter des quiz bientôt pour que tu puisses récupérer les notions importantes. Et donc, ça te permet à moindre coût parce que ça coûte pas très très cher. Il faut savoir que les formations, là, j'ai monté un petit peu les prix parce que je les alimente sans cesse, donc elles s'améliorent de jour en jour. Et elles sont passées à 100 €, donc pour les formations qui sont techniques pour apprendre un logiciel. Il y a d'autres formations d'un autre type qui vont arriver bientôt sur lesquelles je travaille. Mais c'est pas cher par rapport à une école de cinéma qui te coûte extrêmement cher, par rapport à chercher des heures et des heures et des heures sur YouTube du contenu qui parfois est daté ou est fait par des gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils disent, ou alors juste est daté parce que ça se date très très vite. Ou alors tout simplement de se payer une formation professionnelle ou quelque chose de similaire sur, voilà, sur c'est une formation professionnelle pour apprendre DaVinci, c'est entre 3 et 5 000 euros quoi. Donc moi, c'est pas un équivalent de la formation professionnelle, mais c'est quelque chose qui va te permettre de mettre le pied à l'étrier et de commencer à partir déjà sur ton chemin à cheval, tu vois. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant dans ce sens là et qui après justement peut être complémenté par des futures formations en présence. Donc c'est-à-dire que un exemple, tu pourras venir à Paris, ou si j'arrive à les faire dans d'autres localités, tu pourras aller faire ça dans d'autres localités, mais tu viendras passer une journée à apprendre le montage avec moi, mais pas seulement, avec des chefs monteurs avec qui j'ai travaillé, qui pour certains ont des Césars, etc. Donc ça, c'est le gros projet de développement derrière, mais malheureusement pour faire tout ça, il faut vérifier et assurer le nerf de la guerre qui est l'argent. Parce que bah, toutes ces choses-là, toute cette logistique de faire du présentiel, ça se paye. Et au niveau de qualité auquel je veux le faire, ça se paye cher. Donc du coup, c'est de l'objectif à long terme, quoi.
Tout à l'heure, on parlait du nombre d'abonnés que tu avais sur ta chaîne et autres. Est-ce que tu t'es fixé un chiffre d'audience en disant « il me faut une audience minimum pour lancer ça ou... »
Pas du tout. Pas du tout. J'ai même envie de te dire, et ça, c'était pas top secret, mais je ne l'ai jamais dit non plus. À la base, quand les gens avec qui j'en ai parlé m'ont convaincu, je ne voulais pas du tout vendre la chaîne YouTube. Et je ne voulais même pas leur vendre des trucs, en fait. Je ne voulais absolument pas parler de ces produits-là, de ces formations et de tout ce que je monnaie à la chaîne YouTube. Je voulais mettre non pas un système de Tipeee ou quelque chose comme ça, je voulais mettre un système de dons via mon site à moi parce que je n'ai pas envie qu'on me prenne des parts énormes. La part de 4% de PayPal me suffit. Je veux que les gens, quand ils décident de donner de l'argent, ça aille à la bonne personne, tu vois, pas comme quand on paye des impôts. Et donc du coup, vraiment l'objectif, c'était de pas vendre à ma communauté, mais je me suis dit, c'est quand même super égoïste de travailler autant de temps sur un truc et de pas du tout le vendre aux gens qui sont à la base intéressés déjà par ce que je fais. Et en plus d'être égoïste, d'un point de vue business, c'est pas intelligent. Donc du coup, pour l'instant, j'ai fait l'inverse en fait, c'est-à-dire que pour l'instant, j'en parle que à ma chaîne YouTube. Et j'ai renversé le truc totalement, c'est-à-dire qu'au lieu d'être égoïste, je les favorise puisque eux, ils ont accès aux formations dès le début, ceux qui sont dans la liste email encore plus tôt, et ils ont accès aux formations dès le début à un prix qu'ils ne verront jamais puisque jamais la formation, elle ne sera au prix de lancement à nouveau. Et contrairement à d'autres infopreneurs, mes prix de lancement, c'est des vrais prix de lancement, et une fois que c'est passé, c'est vraiment passé. Et donc du coup voilà, c'est vraiment retournement total, mais j'avais clairement pas d'objectif de quantité, puisque de toute façon c'est exponentiel pour l'instant, donc je croise les doigts pour que ça le reste. Puis voilà, non, j'ai pas d'objectif précis quoi. Après, moi j'ai un objectif précis de développement de la chaîne, ouais.
Quel conseil tu donnerais d'ailleurs pour développer une chaîne YouTube ? Enfin, si t'as un conseil parmi, parce qu'il y en a, on en voit tellement, etc. Mais le conseil de...
Alors, je te vais donner trois conseils dans l'ordre. Le premier conseil, c'est d'acheter le livre de Janvier, YouTubeur. Très très bon livre auquel j'ai participé. En e-book, il coûte pas cher du tout. Et de toute façon, il faut se dire un truc, c'est que si tu n'es pas prêt à mettre, je crois que c'est 5€ dans un e-book pour apprendre ces choses-là... Ne te lance même pas dans une chaîne YouTube, parce que tu n'as pas compris quelque chose de fondamental. C'est que pour réussir, que ce soit un objectif de nombre d'utilisateurs, enfin de nombre de vues ou de personnes qui viennent acheter tes produits, il faut absolument que tu comprennes comment marchent les choses. Et ça marche comment ? Il faut acquérir sans cesse des nouvelles informations et sans cesse te former. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas réussir, c'est impossible. Ou alors c'est de l'intuition, et alors là tu as un talent et tu es le 1 sur 1 million. Le deuxième conseil, c'est de épuiser Facebook, YouTube et même Facebook aussi, en anglais et en français, puisqu'il y a des très bonnes ressources en anglais et en français, sachant que bien entendu en anglais c'est mieux, puisque les mecs qui font ce genre de ressources sur comment développer une chaîne YouTube en anglais sont certifiés par YouTube, c'est-à-dire qu'ils font des stages chez YouTube, ils sont formés par YouTube, et eux c'est les meilleurs parce qu'ils font des tests, c'est leur boulot quoi, ils sont payés pour ça, ouais. Donc eux ils peuvent t'aider. Et le troisième conseil, c'est que si t'es vraiment sérieux et que ce soit pour ton business ou pour n'importe quoi, tu prends du consulting avec Maximus qui va t'aider à développer ta chaîne YouTube et qui va te donner toutes ces astuces. Mais la première astuce que je donnerais, qui est la plus importante, c'est d'installer un petit plugin qui s'appelle TubeBuddy. Il y en a un autre qui s'appelle Video IQ qui te permet déjà d'optimiser ton SEO et donc de vérifier si ta stratégie marche. Et voilà, sachant que bien entendu hein, on parle de stratégie SEO, puisqu'on utilise le moteur de recherche de Google et de YouTube, qui sont quasiment similaires, qui sont les deux meilleurs moteurs de recherche et les plus gros, et ce truc là c'est un peu archaïque on va dire, puisque ça marche encore, mais vaut mieux diverter son attention vers Facebook, puisque c'est Facebook qui va exploser cette année, et avec la vidéo ils ont des beaux trucs qui arrivent.
L'avenir de YouTube, toi tu le vois comment
Je sais pas. Je t'avoue que aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile de justement d'optimiser ce truc-là de SEO, et c'est une logique de l'humain, si tu veux. Pour moi, on est plus proche de la logique humaine. Mmh. C'est-à-dire que c'est un algorithme, mais ça fonctionne différemment. C'est comment faire des pâtes au beurre. Tu tapes comment faire des pâtes au beurre. Si toi derrière t'as fait une vidéo comment faire des pâtes au beurre, t'as quand même vachement de chance qu'il y ait des gens qui tombent sur ta vidéo. Donc là, tu vois, pour parler de stratégie, c'est une autre très bonne stratégie. Mmh. Qu'est-ce que les gens cherchent ? Je répondrai d'abord aux questions des gens. Et le problème, c'est que Facebook. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Instagram, Snapchat, c'est pas comme ça que ça marche. Et malgré tout, je dois devenir vieux, parce que générationnellement, pour moi, c'est compliqué c'est une nouvelle mécanique à apprendre. Donc je pense que YouTube a encore énormément d'avenir, et c'est évident parce qu'ils sont quand même bien fat. Mais ils ont intérêt à se bouger le cul avec leur histoire de story, etc. Pour rattraper le retard, parce que Facebook, c'est Facebook. Facebook, c'est Instagram. Si tu regardes en face, il reste Twitter et Snapchat. Donc YouTube, ils peuvent devenir très vite un vrai réseau social, mais faut faire mieux que ce qu'ils font maintenant et respecter les créateurs un peu.
Ouais. Moi, c'est ce que je disais, c'est que YouTube, c'est un peu le Wikipédia actuel pour une génération qui cherche comment faire, comment apprendre. Ou même j'ai vu des gens qui apprennent pas le permis de conduire, tu vois, mais apprennent les parcours pour avoir leur permis de conduire. Il y en a qui filment ça, etc.
Il y a des gens qui font ça. Il y a des chaînes spécialisées, genre je filme mes parcours de conduite et je les commente et tout. Il y a des trucs. Enfin. Aujourd'hui, je pense que tu pourrais vivre sur une île déserte juste avec YouTube et Amazon, hein, sans souci. Hein.
Alors, j'ai une autre question par rapport à YouTube. Enfin, j'en ai deux, en fait. La première, c'est est-ce que la régularité est importante ? Parce que toi, tu as publié toutes les semaines, tu as fait du tous les jours, tu as fait...
Important. Ouais, alors, je sais pas. Tu sais, YouTube, ils savent pas trop. Des fois, oui, des fois, non. Des fois, il y a des gens qui viennent, qui publient pendant... J'en ai vu hein, qui font ça, hein, qui ont voulu... arriver dans le monde de la vidéo, parce que bon, j'observe vachement qui est sur mes mots-clés et donc du coup j'en ai vu qui arrivent et qui font 3 mois de vidéo, mais c'est pas efficace parce que je pense que c'est plus important que essayer de tricher l'algorithme. Je pense qu'il faut avoir une composante humaine derrière hyper importante, déjà comprendre l'humain, comprendre comment il agit, comment il réfléchit, etc. Et ça, malheureusement, bah, Tu peux pas l'acheter et tu peux pas, si tu veux, juste en faisant une vidéo par jour, le hacker. Maintenant, ouais, la régularité, c'est hyper important. La quantité, c'est important aussi. Et ce qui est important, c'est surtout de ne pas attendre d'avoir la vidéo parfaite. Il faut débiter en quantité et tu réajustes le tir, en fait. C'est vraiment, YouTube, c'est vraiment, il faut l'aborder comme une start-up. C'est-à-dire que tu fais une vidéo basique, viable au minimum, et après, bim, tu fais de l'itération et tu continues, bam, 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 t'en fais des nouvelles, tu changes, tu varies. Et ce qui est génial, c'est que les gens, ils te disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et si tu leur parles, ils te parlent. Et ça, c'est dingue parce qu'en fait, tout ça, comme je le disais encore pendant cette conférence la dernière fois, c'est juste de l'humain, en fait, quoi. Donc, tu reproduis ce que tu ferais dans la vraie vie, quoi. Donc, si tu sais faire ça dans la vraie vie, tu peux le faire en ligne après.
Bon, mon autre question que j'ai sur YouTube, c'est est-ce que tu es obligé de faire une rôle de tête sur les vignettes?
Oui. Ah, c'est marrant. Il y a une heure, je tournais une vidéo pour dire voilà mon workflow, voilà comment je fais. Et donc, du coup, maintenant, je fais des drôles de tête sur la vignette parce que visiblement, ça marche. Et encore une fois, visiblement, c'est pas ça. J'ai rien trouvé de magnifique, hein, ni les gros YouTubeurs. Mais c'est quelque chose de physiologique de l'humain. Il aime ça. Il aime voir la surprise. Enfin, tu dois parler de ça, j'imagine. J'ai pas exploré assez ton contenu, mais on propage vachement ce qui favorise, enfin ce qui est vecteur de haine et de malheur, etc. On partage aussi des petits chats parce que ça nous fait rire. Enfin voilà, c'est toujours les émotions. Il faut jouer sur les émotions, c'est le plus important.
Non, mais en plus, t'es en plein dans ce que je raconte parce que tout ce que tu viens de dire, je l'ai raconté dans mes épisodes de podcast. Donc c'est aussi pour ça, tu vois. Je suis content de t'inviter et que tu sois le premier invité du podcast parce que je savais que tu.
Ça me fait plaisir.
Je me retrouve bien dans ta philosophie, en fait, et notamment l'histoire de l'itération. Moi, c'est ce que j'appelle le contenu minimum viable.
Exactement, le MVP. Ouais. Enfin, c'est comme le produit. C'est comme le produit en startup. Minimum viable product, ouais. C'est super. Ouais. Mais après, c'est hyper contre-intuitif, si tu veux, par rapport à nos éducations. Moi, je vois, j'ai pas été élevé par quelqu'un qui m'a dit soit parfait, soit parfait, soit parfait. Mais je vois les jeunes aujourd'hui qui arrêtent pas de dire tout le temps oui, mais je suis nul, ah oui, mais si, ils ont 13-14 ans, et tu te dis putain, c'est chaud pour la génération qui arrive. Et c'est un vrai problème, en fait, c'est parce qu'on te fait croire que tu dois être parfait, on te fait croire que tu dois avoir le bac, on te fait croire que tout ira bien. Et en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. La vie, c'est la jungle, et tu feras bien ce que tu peux faire. Mais le problème, c'est qu'on oublie de mettre en avant faire. On te dit sois bon, on te dit pas fais et vois ce qui se passe. Donc c'est un peu contre-intuitif pour un grand nombre de personnes. Je le vois dans les coachings que je fais, c'est t'as l'impression que tu réinventes la roue, quoi, alors que t'es juste fait, quoi, tous les jours. Donc voilà.
Mais c'est même, ça me semble même contre-intuitif par rapport à ton monde du cinéma d'où tu viens à l'origine. Enfin...
Ouais, non, je peux en parler pendant très longtemps de ça. Il y a plein d'aberrations aussi de ce côté-là. Mais ouais, c'est contre-intuitif parce que c'est même pire. Parce que tu t'imagines un réalisateur, il prépare un film, il se bat pendant 2 ans pour essayer de faire son film. Au final, l'étape la plus importante qui est le tournage, il a que entre 6, 7, 8 semaines, 10 semaines s'il est riche. En budget et après il a du montage. Le montage, il a un petit peu plus de temps, mais c'est pareil, ça commence à réduire. Mais du coup, t'as très peu de temps pour faire les choses parfaites, et t'as vachement plus de versions de scénario que t'as de versions de montage, et t'as vachement plus de versions de scénario que t'as de temps de faire de prises pour faire des versions de jeu, etc. Enfin, c'est hyper pas logique. Bon, c'est des contraintes financières, mais c'est hyper pas forcément très logique aussi.
Bon, j'avais 2-3 questions sur la vidéo.
Clairement.
Et alors notamment, on disait qu'il ne faut pas chercher la perfection. Et c'est aussi valable pour le matériel. Parce qu'on a l'impression que tout le monde tombe dans le piège. Il faut la caméra parfaite, le micro parfait. Alors, quand on regarde tes vidéos, on voit un matériel que tu as, mais c'est hallucinant. Rassure-nous, hein, tu n'as pas besoin d'avoir tout ce que tu as pour faire la vidéo.
Non, bon, alors... Je vais pas te dire que je peux faire tout ce que j'ai là avec un iPhone, parce que mon iPhone 6, merci Apple, ne fonctionne pas vraiment comme je voudrais, on va dire. Mais avec un smartphone d'une qualité décente qui accepte une entrée jack, donc qui accepte une entrée de son, et un bon micro qui a de, enfin tu vois, où tu peux mettre un peu d'argent dans le micro quand même. Tu peux même mettre de l'argent dans un micro sans fil. Tu peux faire tout avec ton téléphone, un petit trépied, un petit truc pour tenir le téléphone sur le trépied, et tu peux faire tout ça comme ça. Maintenant, tu peux aussi tout faire avec un seul DSLR et un micro dessus. Il y a plein de solutions très simples et pas chères. Mais maintenant, moi, j'ai tout ça parce que c'est ce qui me permet de produire en quantité et ce qui me permet de faire des formations qui coûtent que le prix qu'elles coûtent, parce que malgré tout, c'est pas extrêmement cher. Mais si tu imagines, si je devais passer deux fois plus de temps, bah, c'est compliqué derrière, quoi. Donc c'est vraiment une nécessité et un confort, parce que d'avoir des enregistreurs, d'avoir tout plein de choses, ça me permet de ne pas avoir à avoir un ordi très très puissant. Enfin bref, c'est plein de logiques d'investissement, si tu veux. Maintenant, tu peux commencer avec un téléphone, un micro à 60 euros, un truc pour tenir ton téléphone, là, une espèce de bras, ça coûte 45 balles en Chine. Et bim, c'est parti, tu fais le montage sur ton téléphone. C'est ce que j'ai appris à mon frère à faire là, il y a quelques jours. Et c'est parfait, quoi. Donc même pour les entrepreneurs, n'importe qui, il n'y a plus d'excuses.
Ouais, moi, c'est ce que je dis, c'est que des fois, les gens ne se rendent pas compte pourquoi on achète des logiciels à 300 ou 400 euros, mais quand on gagne du temps... Ouais. Moi, par exemple, en quotidien sur le podcast, l'autre jour, j'ai renouvelé ma licence de mon logiciel. Ouais. Et me suis rendu compte, en fait, que... bon, il me coûte 140 euros l'année, tu vois, quelque chose comme ça. Mais c'est ce qui me permet de publier tous les jours.
Ouais, voilà. Mais après, si tu regardes au prorata, quoi, tu divises par le nombre de podcasts que tu crées avec... et tu vois qu'au final, par podcast, il ne coûte pas très cher par rapport à galérer avec des logiciels gratuits où tu es limité, où ça bug, où ça plante, etc. quoi.
Et c'est vrai que les gens ont un peu de mal des fois à intégrer cette logique-là.
Mais ceux qui ont du mal, c'est ceux qui ont du temps.
Oui, bah ça après, c'est la logique. Hein. Si on a du temps, si on a de
l'argent.
Exactement. C'est la grande logique du piratage aussi. Ceux qui n'ont pas lu le livre, dont j'ai perdu le nom, mais de Chris Anderson, où il explique très bien ça sur le piratage. Mais bon, c'est vraiment un autre sujet. Moi, j'ai une autre question quand même sur le matériel, parce que, tu sais, moi, je fais un peu de vlog, etc. Ouais. Alors, je le fais beaucoup avec mon iPhone.
Ah, bah c'est bien.
Mon iPhone 7. Mais en fait, ça fait des mois et des mois que je cherche un appareil. Alors, attention, hein, c'est... je ne l'ai pas vu sur ta chaîne. J'ai cru l'autre jour que tu allais m'en sortir un qui ferait ça. Qui soit petit, pour entrer dans une poche,
ouais.
Qui a un écran orientable et qui a une prise micro.
Ouais. Mais celui-là, ils ne l'ont pas inventé encore. Ou alors il n'existe pas, mais je pense que si quelqu'un t'en saura dans les commentaires de ton podcast, ou même moi si je demande à ma communauté, je pense qu'il n'existe pas pour la simple et bonne raison que c'est un jeu, tu sais, c'est comme je veux du travail rapide, de qualité et pas cher. Tu peux avoir que deux des trois. Et le problème, c'est que quand tu me demandes ça, si tu veux, les constructeurs, ils ont bien compris, donc ils vont te donner que deux des trois à chaque fois. Et donc du coup, si tu rajoutes une prise micro, tu vas commencer à perdre une partie des trucs, ou alors tu vas avoir un objectif interchangeable et ça rentre plus dans la poche, voilà. J'y ai cru aussi avec le LX15, bon, je savais qu'il n'y avait pas de prise micro, je pensais que le micro serait assez de bonne qualité. Au final, j'étais pas convaincu, je l'ai testé extensivement, j'étais pas convaincu. Très très bonne qualité d'image, cela dit, surtout comparé au GH5. Mais non, après il y en a d'autres, mais c'est pareil, c'est plus de la 4K. Donc si tu es pas exigeant et que tu veux pas de 4K, ce que je ne recommande pas, tu dois pouvoir trouver quelque chose. Maintenant, on va pas se mentir, honnêtement, l'iPhone, l'argent que tu voulais mettre dans cet appareil, tu le mets dans un iPhone, tu as 256 Go en plus, puisque tu peux payer plus cher vu que c'est plus seulement ton smartphone, mais c'est aussi ton appareil de vlog en quelque sorte. Et du coup, tu auras tous les avantages puisque tu le mets, regarde, c'est génial. Tu prends un iPhone comme ça, tu le mets dans un Smooth Q ou un machin, un stabilisateur de téléphone. Tu prends un petit micro avec et c'est bon, c'est plié, t'as un setup qui est nickel, quoi. Et en plus tu fais des 120 images par seconde, et tu peux monter directement sur ton téléphone. Donc c'est pas idéal, mais malheureusement je pense que c'est ce qui répond le mieux à cette question.
Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que des fois j'ai peur de le tomber, en fait, tu vois, quand je fais du vlog en skate ou en vélo, ouais. Tu vois, ça...
Bah pour le coup, tu sais ce que dit Casey Neistat, hein. Là, je reprends rarement ce que disent les autres, parce que après tout le monde croit que tu fais que boire le contenu des autres, mais au début, il avait sa première caméra qui lui a coûté très cher, il la mettait dans son sac tout le temps, et du coup, il la sortait jamais. Et tu vois, moi j'ai la même philosophie, quoi. Tout mon matériel, il est monté prêt toute la journée à tourner. Comme ça, si je veux tourner, clac, je suis prêt à tourner en quelques secondes. Et c'est ça, c'est le fait d'avoir tout à portée de main rapidement qui fait que tu tournes et que tu dois. Ben voilà, ça veut dire que tu dois mettre les choses en danger, ça veut dire que tu dois prendre des risques, bon, considérer, mais prendre des risques pour avoir les bonnes images, quoi. Donc y a toujours une dark side.
Ouais, bon, t'as vu aussi Casey Neistat, hein, il a une collection de drones cassés.
Effectivement.
Un matériel, c'est impressionnant.
Ah, mais quand il réfléchit, il a tout ce matériel parce qu'il l'a mis en danger pour faire les vlogs. Et aujourd'hui, c'est grâce aux vlogs qu'il peut se payer n'importe lequel de ce matériel, tu vois. T'as juste intérêt à ce que la quantité de personnes qui te regardent et le financement arrive aussi vite qu'à la vitesse tu casses les choses.
Tu crois qu'on peut vivre encore de YouTube? Enfin, quelqu'un qui se lance là maintenant, tu vois, il se dit j'ai envie d'être YouTuber. Enfin, c'est ce que me disent. Moi, tu sais, je fais la formation, j'ai plein de parents qui ont des gamins de 14 ans qui veulent devenir YouTuber. Ils savent pas quoi répondre à leur gamin, tu vois.
Bah écoute, c'est déjà, je prends quelques secondes pour reconnaître qu'il y a des parents intelligents. J'ai tendance à dire l'inverse parce que j'ai vu beaucoup de parents bornés priver les gens de leurs rêves. Merci maman qui m'a pas privé de mes rêves. Mais c'est bien qu'ils se posent des questions et qu'ils te demandent, je trouve ça génial. Maintenant, ouais, la réponse, elle n'est pas facile. Et elle est même très compliquée dans le sens où aujourd'hui, alors tu peux compter avec moi, mais très facilement, je ne pense pas me tromper en me disant qu'il y a à peu près 2, voire 2,5 types de business model. Donc c'est soit tu fais des vidéos sur YouTube et tu te rémunères grâce à tes produits que tu vends, comme ce que je fais moi avec Maximus University. Enfin, tu me diras, je ne me rémunère pas pour l'instant parce que je développe l'entreprise. Mais voilà. Parce que la chaîne YouTube me rapporte pas grand chose. Ma chaîne YouTube me rapporte 50€ par mois, je crois. Donc ça paye même pas la fibre orange, tu vois. Donc voilà, c'est un business model. C'est tu vends tes propres produits. Et donc du coup, tu es une plateforme marketing à toi-même. Et donc c'est de l'inbound marketing, etc. Ou alors tu es un influenceur. Donc là, tu peux le faire sur Instagram, tu peux le faire de partout. Le problème, c'est qu'être un influenceur, tout le monde veut l'être. C'est pas facile. Il faut se battre. Et qu'aujourd'hui, c'est un truc qui est sous-payé, l'influenceur. C'est-à-dire que les gros prennent beaucoup d'argent et les moyens ne prennent pas beaucoup d'argent parce que le budget de pub n'a pas encore totalement shifté vers Internet et on n'a pas encore compris la valeur d'un influenceur. Et même pire que ça, on n'a pas compris comment comprendre la valeur d'un influenceur. Je te dis ça, hein, les plus grosses agences RP, moi, j'ai affaire à eux et je sais qu'ils font des erreurs parce que je connais mes potes youtubeurs à qui ils donnent des partenariats. Je sais combien mes potes youtubeurs font de ventes après ces partenariats et je sais combien moi je fais de ventes sur le même type de produit alors que j'ai moins d'abonnés. Donc voilà, c'est encore une fois très compliqué en termes de business model et je dirais le 0,5e ce serait d'avoir un mécène ou alors de ne pas vouloir vivre de ça ou alors enfin voilà, et après il y a d'autres astuces, enfin je dirais même ce serait de vivre de la pub, mais ça on n'en parle même pas parce que c'est intéressant que si tu fais au minimum beaucoup de vues beaucoup de vues. Et je pense que c'est débile. Vouloir vivre de la pub, c'est débile. Parce que si tu vis de la pub, ça veut dire qu'en gros, tu dis à YouTube, écoute YouTube, tu peux faire ce que tu veux de moi, il n'y a aucun souci. Voilà, vas-y, je vais faire des vidéos gratuitement, je vais les mettre ici, toi tu vas gagner de l'argent et tu me donnes ce que tu veux. Tu peux changer quand tu veux. Parce que YouTube, ils font ce qu'ils veulent, Google, ils font ce qu'ils veulent et il ne faudra pas venir râler quand ils vont couper les revenus en deux ou quand il y aura des trucs qui vont, voilà, des mecs qui ne vont plus vouloir dépenser d'argent sur YouTube. Donc en gros, se fier sur les revenus de YouTube, c'est pas bien. Donc il faut soit que tu aies des revenus d'influenceur, soit que tu aies tes propres revenus, ou alors que ce soit une passion à côté. Ça peut être une passion qui, voilà, qui te prend beaucoup de temps et dans laquelle tu mets de l'argent. Et voilà, mais c'est pas aujourd'hui en termes de carrière, il faut être très stratégique et bien calculer son coût. Encore une réponse très longue.
Non, mais c'est très bien. Bon, je te remercie parce que moi, on a fait un bon tour puis qui rentrait vraiment dans tout ce qu'on a, tout ce que je traite habituellement comme sujet. Comme je te le dis, on a vraiment la même philosophie. C'est pour ça que j'aime beaucoup tes contenus.
Bah écoute, ça me fait plaisir en tout cas.
J'apprends des choses, même si j'ai pas le temps de toujours appliquer. Mais tu vois, je vais sortir demain mon iPhone, je vais faire une petite vidéo, je vais démarrer ta formation, je vais arriver à faire des trucs, tu vois. Qu'est-ce que tu... Bon, tu en avais un petit peu parlé, mais où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, en théorie, sans avoir la grosse tête, si tu tapes Maximus Montage dans Google, toi, personne qui écoute ce podcast, tu dois pouvoir me trouver. Sinon, sur maxmaximus.fr et de maxmaximus.fr, tu peux aller vers ma chaîne YouTube si tu veux du contenu gratuit parce que tu penses que toute l'information devrait être gratuite dans le monde et que tu es open source. Et là, tu verras qu'il y a du contenu gratuit, qu'il est de qualité et que les infos qui sont données sont de très bonne qualité. Tu peux les appliquer. Tu peux regarder les vidéos plusieurs fois. Elles vont un peu vite, effectivement, mais tu peux les regarder plusieurs fois. Et ensuite, si tu es convaincu de ce que tu as vu et que tu te dis « Ouais, mais moi, j'aimerais aller plus loin et j'ai pas envie d'explorer tout Internet parce que j'ai envie d'apprendre vite, parce que ce qui compte dans ma vie, c'est d'avoir du résultat et non pas de passer des heures à me dire « Ah oui, mais quel logiciel choisir ?» etc. » Et ben, tu vas sur maximusuniversity.fr, university comme en anglais. Pareil, tu peux trouver ici ce lien depuis le site internet maximus.fr. Et là, tu verras des formations de montage, donc il y en aura de plus en plus. Et breaking news, il y a des formations débutants qui arrivent. Donc, si tu n'as jamais touché un logiciel de montage de ta vie, et ben voilà, je vais avoir bientôt des formations pour toi où tu vas apprendre dans un petit premier module. Et attention Bertrand, c'est du dessin animé tout fait par mon graphiste qui est génial. Et je le remercie au passage. Donc voilà, c'est une très belle collaboration avec mon graphiste. Et donc, ça va être une partie théorique sur comment marche le montage le plus basique qui existe. Voilà en gros.
et si je sais pas monter, la phase avant monter, c'est-à-dire filmer, prévoir, etc.
Et bah c'est pareil, tu peux venir sur ma chaîne, tu peux me poser des questions, ce qui me motivera à faire des vidéos qui traitent de ce sujet-là. Et après, tu peux aller voir les chaînes très intéressantes d'autres youtubeurs qui te seront suggérées. Mais tu peux aller voir, voilà, Vincent Tully qui est un peu pour l'instant qu'on voit plus trop, mais qui avait des tutos très intéressants sur l'optique et sur l'audio, puisque lui c'est son métier. Il a été chef opérateur au cinéma et il a fait, enfin opérateur image et son. Donc il y a des choses très intéressantes. Et puis après, le mieux c'est de poser des questions et de trouver des réponses.
Je crois que c'est la grande logique d'Internet. Hein. De toute façon, quelle que soit la question que tu poses, tu trouves toujours une réponse.
Ouais, mais faut chercher avant de poser des questions. Moi, j'en ai qui regardent les vidéos. Ah. J'en ai qui regardent les vidéos et qui posent des questions. La réponse est dans la vidéo.
Mais c'est souvent le cas. Et alors, c'est encore tout à l'heure, tu parlais de Facebook. La logique, c'est encore pire sur Facebook. Ouais. Je partageais un lien tout à l'heure. On m'a posé une question. En cliquant sur le lien, elle avait la réponse. Ouais. Donc, trois lignes de texte à lire. Tu vois, c'était les. Mais bon, c'est un petit peu la logique. Et d'ailleurs, c'est un message. Je suis en train d'ouvrir un forum. Ouais. Et sur le forum, ce sera le premier message. Il y a un moteur de recherche.
Ouais. Breaking news, tiens, pour tous ceux qui t'écoutent, sur les chaînes YouTube, il y a des moteurs de recherche internes aux chaînes. Profitez-en, les gens, parce ouais. que franchement, tu peux taper ce que tu veux sur n'importe quel endroit du web et ça cherche, mais tu peux chercher dans une chaîne YouTube. Donc, admettons, tu adores Bertrand, et bah, tu peux chercher sur sa chaîne YouTube. Avec tes petits doigts, tu tapes sur le clavier et tu mets podcast avec Maximus, bim, tu vas trouver le podcast avec Maximus. Enfin, sauf si tu le postes pas.
Ça, ouais, ou alors ils vont tomber sur une vidéo où je leur disais de regarder ta vidéo sur le Panasonic dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, parce que depuis que j'ai dit qu'il fallait pas acheter un Sony hybride pour faire du vlog, j'ai plein de gens qui me demandent des conseils d'appareils photo, alors je suis très emmerdé. Donc je les ai renvoyés sur ta vidéo, là, sur Merci. Le test que t'as fait du Panasonic, qui était super tentant, tu vois, mais avec cette histoire de prise micro, là, je
Ouais, c'est le gros problème, hein, c'est le gros problème. Après, pour le coup, si tu fais que de la vidéo en intérieur, donc pour le vlog, ça va pas, mais si tu veux un petit appareil compact, tu fais que de la vidéo en intérieur, tu prends ça et un petit zoom H1... voilà, vraiment low cost, pas vraiment plus cher, ça coûte 100 balles le zoom H1, donc t'as le son enregistré à part, et là c'est nickel, quoi. T'as juste à faire une petite synchro quand tu vas au montage, ça je te l'apprends dans toutes les formations et même dans les vidéos sur YouTube, mais après pour faire du vlog, non, c'est pas vraiment compatible.
Non, ça marche pas. Bon, ben, je te remercie pour tes
Merci
conseils et tout ça. Donc t'as donné toutes tes adresses, moi je les remets de toute façon dans les notes de l'émission. J'imagine t'as des nouvelles vidéos qui vont sortir rapidement.
J'ai des nouvelles vidéos qui vont sortir rapidement, ouais, que j'ai tournées tout à l'heure, notamment une vidéo qui annonce le tout nouveau site tout neuf de Maximus University. Et puis voilà, je vais t'envoyer un petit code de réduction pour ton audience fidèle pour les deux formations qui existent pour l'instant. Comme ça, vous pourrez avoir un petit code de réduction pour ceux que ça intéresse.
Merci à toi.
Écoute, avec plaisir.
Je te remercie pour ton temps, pour ton sourire et pour toutes tes vidéos que tu fais. Parce que franchement, je le redis, hein, vraiment, moi j'apprends plein
Merci.
De choses. Et je te dis à bientôt.
Non, à très bientôt. Et que voilà, tout le monde ait une bonne année puisqu'on fait ça au début d'année. Donc je te casse un peu ton evergreen. Mais très bonne année à tous et surtout plein de temps et de santé.
Ouais, mais je te couperai au montage. Non, c'est une blague. Meilleurs vœux. Moi, je leur souhaite à tous de faire des beaux projets et surtout d'être acteurs d'Internet et pas des spectateurs.
Ouais, d'accord, ouais, ça, je suis d'accord avec toi.
Bah, merci à toi. Très bientôt. Voilà, c'était la fin de cet épisode dédié à la vidéo. Bon, il y aurait plein d'autres questions, mais vous l'avez compris. Il faut y demander à Maximus et il vous a dit comment le trouver. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.